Audiolib présente The Expanse, tome 5, Les Jeux de Némésis, de James S. A. Corey, traduit de l'anglais par Yanni Surano, lu par Thierry Blanc. Aben Cook, sans qui... Prologue. Philippe. Les chantiers navals jumeaux de Callisto se tenaient côte à côte, sur l'hémisphère de la Lune qui tournait le dos à Jupiter de manière permanente. Dans la nuit éternelle, le Soleil se contentait du rôle d'étoile la plus brillante, la large étendue de la Voie lactée surpassant de loin sa luisance. Le long des crêtes du cratère, des lumières blanches et crues installées pour faciliter le travail dans l'obscurité éclairaient les bâtiments, les engins de chargement et les échafaudages en contrebas. Des squelettes de vaisseaux à demi construits s'élevaient au-dessus du régolithe de glace et de poussière de roche. Deux chantiers navals. L'un civil et l'autre militaire. L'un détenu par un groupe terrien, l'autre par Mars. Tous deux protégés par les mêmes canons électromagnétiques antimétéores, tous deux destinés à la construction et la réparation des vaisseaux spatiaux qui transporteraient l'humanité vers les nouveaux mondes au-delà des anneaux, quand le conflit sur Illus serait résolu, s'il l'était un jour. Tous deux dans une situation plus délicate qu'ils ne l'imaginaient. Philippe s'avança, le reste de son équipe suivant juste derrière lui. Il avait retiré l'éclairage à LED de sa combinaison, poncé le revêtement en céramique jusqu'à ce que la surface soit assez lisse pour ne plus refléter la lumière. Même son collimateur tête haute avait été réglé pour demeurer presque invisible. Les voix dans l'oreille de Philippe, le trafic spatial, les annonces de sécurité, le bavardage des civils, lui étaient retransmises par sonar passif. Il écoutait, sans émettre aucun son en retour. Le laser de ciblage sanglé dans son dos était pour le moment désactivé. Lui et son équipe étaient des ombres parmi les ombres. Le petit compte à rebours digital sur la gauche de son champ de vision descendit sous la barre des 15 minutes. Dans l'air à peine plus dense que le vide, Philippe fit un geste à plat de la main, l'idiome ceinturien pour signaler d'avancer lentement. Dans son dos, l'équipe suivit le mouvement. Haut dans l'espace au-dessus de leur tête, trop distant pour être aperçu, les appareils martiens qui gardaient le chantier naval échangeaient d'un ton clair et professionnel. Avec les effectifs réduits de leur flotte, uniquement deux d'entre eux se trouvaient en orbite. Probablement les seuls. Il y en avait peut-être d'autres dissimulés dans l'obscurité, contenant leur propre chaleur afin d'échapper au radar. Peut-être, oui. Mais les chances étaient minces. Et la vie, comme l'affirmait le père de Philippe, était une entreprise risquée. 14 minutes, 30 secondes. Deux comptes à rebours secondaires apparurent non loin du principal, l'un réglé sur 45 secondes et l'autre sur 2 minutes.
Vaisseau de transport Frank Aiken, vous avez l'autorisation d'approcher.
Bien reçu, Carson Lay.
Répondit le grognement familier de Sin. Philippe visualisait d'ici le sourire du ceinturien tandis qu'il prononçait ces mots.
« Koyos sabebest aïs sous bébé une fois en bas ?»
Quelque part là-haut, le Frank Aiken braquait ses lasers de détection sur l'appareil martien, réglé sur la même fréquence que celui que Philippe transportait dans son dos. Quand l'officier de transmission de la flotte martienne reprit la parole, rien dans sa voix ne trahissait la peur.
« Message non reçu, Frank Aiken. Veuillez répéter. »«
Désolé, désolé, » dit Sin en riant. « Vous qui êtes des gens sympas, vous n'auriez pas l'adresse d'un bon bar ou un pauvre équipage ceinturien pour aller boire un verre après l'atterrissage ?»«
Aucune idée, Frank Aiken, »
répondit le martien.